Bonjour à tous. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que, effectivement, tu nous offres ta grâce. Merci parce que cette grâce nous est offerte non seulement par rapport à notre situation, par rapport à toi, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Tu nous montres ta grâce. Aide-nous à la comprendre toujours plus. Nous n'arrivons pas à totalement la saisir, tellement elle est grande, mais aide-nous à la recevoir jour après jour, à la recevoir avec joie. Par ta grâce aussi, tu nous fais connaître ta volonté, tu nous fais connaître l'histoire entre l'humanité et toi depuis le début. Par ta grâce, tu nous révèles les Écritures qui sont un guide pour nous. Et nous voulons être encore ouverts à ce que tu veux nous dire par ta parole. Nous te prions pour les enfants qui sont avec les moniteurs, qui préparent les chants pour la fête de la semaine prochaine, que tous ces moments passés ensemble, entre eux, avec les adultes, puissent être des moments bénis, où ils puissent ressentir l'amour que tu as pour eux, à travers les relations, à travers ce qu'ils chantent, à travers la louange, la prière. Nous te prions pour que tu nous accompagnes chacun, depuis là où nous sommes, jusqu'à une marche toujours plus joyeuse et vers une proximité plus grande encore avec toi. Chacun là où nous sommes et aussi en Église, ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Je vais juste chercher ma Bible à côté. Alors ce matin, je vous propose une prédication, ou plutôt une réflexion un peu inhabituelle, où je vais vous demander un peu votre participation. Voilà, ce sera vraiment une réflexion que j'ai eue cette semaine. Je me suis inspiré un peu de ce qui s'est fait dans une église à Montpellier. Voilà, donc je vous invite à réfléchir sur le récit de la nativité de manière globale, de manière dont elle a été transmise aussi de génération en génération. Je vais vous raconter le récit de la nativité et j'ai glissé des erreurs dans ce récit. Et voilà, donc votre rôle consistera à repérer quelles sont les erreurs que j'ai glissées dans ce récit. Alors, il y a peut-être des choses qui vont être plus faciles à détecter que d'autres. Ça fera appel à votre connaissance du récit biblique. Mais voilà, donc que vous ayez une grande connaissance ou une petite connaissance du récit biblique, voilà, les difficultés sont diverses dans ce que j'ai inséré dans cette histoire. Donc voilà, vous êtes invité à être concentré pendant cette lecture et nous allons en discuter ensemble ensuite. Récit de la nativité. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à Nazareth chez une femme vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la famille de David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée par cette parole. Elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voici ce que je suis venu t'annoncer. Tu seras enceinte, tu mettras au monde un enfant et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur lui donnera la royauté. Marie demanda à l'ange, « Comment cela serait-il possible, car je n'ai pas de relation physique avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit agira et tu seras enceinte. C'est grâce à la puissance de Dieu que tu mettras au monde cet enfant. C'est pour cela qu'il sera appelé Fils de Dieu. » Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que cette parole s'accomplisse pour moi. » Après que l'ange soit parti, Marie loua le Seigneur pour ses bienfaits. Plusieurs mois plus tard, à la période où Marie devait accoucher, les autorités ordonnèrent un recensement dans tout l'Empire. Tout le monde devait retourner dans sa ville d'origine pour se faire inscrire. David et Marie ont dû eux aussi partir de Nazareth pour se rendre à Bethléem, parce que Joseph était de la famille du roi David, originaire de Bethléem. Comme Marie ne pouvait pas faire un long trajet à pied, Joseph acheta un âne pour le voyage, ainsi que des carottes pour le nourrir. Puis ils partirent. Après 7 jours de voyage, ils arrivèrent à Bethléem et cherchèrent une maison d'hôte. Cependant, les places étaient trop chères. Ils ne purent s'installer dans une chambre. Or, le moment où Marie devait accoucher arriva. Joseph trouva un aubergiste qui accepta de les installer dans son étable. L'enfant fut mis au monde et on le coucha dans une mangeoire sur la paille fraîche. Aussitôt, une nuée d'anges apparut à des bergers qui se trouvaient dans la même région. Les bergers furent saisis d'une grande frayeur, mais les anges leur dirent « N'ayez pas peur, car nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il est l'envoyé de Dieu, le Seigneur. Vous le trouverez couché dans une mangeoire à Bethléem, près d'un âne et d'un bœuf. » Après cette annonce, les bergers se mirent en route pour aller rencontrer le Seigneur. Au même moment, des rois mages venus d'Asie arrivèrent en Judée. Ils étaient au nombre de 3, Melchior, Balthazar et Gaspard. Ils demandèrent au roi Hérode, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons trouvé son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode entendit cela, il fut troublé. Il se renseigna auprès des spécialistes de la loi pour savoir où naîtrait le Messie, l'envoyé de Dieu. Les spécialistes répondirent aux mages que le Messie devait naître à Bethléem. Le roi Hérode leur demanda de l'informer dès qu'ils le trouveront pour qu'il aille l'adorer lui aussi. Les mages acceptèrent ainsi de le tenir informé. En réalité, le roi Hérode désirait savoir où se trouvait l'enfant pour l'enlever et le mettre à mort. Après avoir entendu le roi, ils repartirent et aperçurent l'étoile au-dessus d'un grand arbre vert, un sapin. Cette étoile les précéda jusqu'à leur arrivée dans l'étable de Bethléem. Arrivés dans l'étable, devant l'enfant Jésus, ils se prosternèrent avec les bergers pour l'adorer, puis ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Jésus sourit et s'endormit paisiblement. Dans la nuit, un ange apparut à Joseph pour l'avertir que le roi Hérode prévoit d'aller chercher son enfant pour le faire mourir. Joseph se leva aussitôt, prit de nuit le petit enfant avec sa mère et se retira en Égypte. L'ange avertit également les mages. Ils décidèrent donc de rentrer chez eux par un autre chemin. Le lendemain, Lorsque le roi Hérode s'aperçut que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et ordonna que l'on tue tous les nouveau-nés de Bethléem. Joseph et sa famille restèrent en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Après cela, ils repartirent pour s'installer en Israël, dans la ville de Nazareth. Fin du récit. Alors, à votre avis, quelles sont les erreurs qui se sont... Enfin, les erreurs. Les détails qui ne sont pas dans la Bible, parce que peut-être que certaines choses ne sont pas dans la Bible, mais sont vraies. Alors, voilà. Quels sont les détails que j'ai glissés et qui ne sont pas dans les récits bibliques? À votre avis?
Le sapin.
Le sapin.
Chambre trop chère.
La chambre trop chère.
Les carottes.
Comment?
Les carottes
pour le lac, oui. Les noms des trois mages. Comment?
Jésus sourit.
Jésus sourit, non, c'est vrai qu'il ne sourit pas dans le texte. Quelqu'un a dit quelque chose, j'ai pas entendu.
L'année
le bœuf.
La réponse de Marie à l'ange.
Non, elle a vraiment répondu ça, Marie, à l'ange. Joseph qui achète un âne, non, c'est pas dans le récit biblique. Si, si, Nazareth, c'est bien vrai. Nazareth,
c'est...
Oui, alors Hérode ne fait pas tuer les nouveau-nés, il fait tuer les enfants de moins de 2 ans.
Moi, je pense que c'est pas en même temps les anges et les mages. Parce que là, tu as dit en même temps.
Oui, oui, juste après, oui. Oui, oui, les mages interviennent plusieurs mois plus tard après les bergers. Tout à fait. Alors j'ai mis j'ai surligné hein, les passages pour pas oublier parce que même moi comment
Jésus
non il est dit Emmanuel dans l'Ancien Testament mais Marie ne le il me semble qu'elle ne le dit pas. Ce n'est pas Marie qui donne le prénom de Jésus non. Voilà c'était révélé. Oui oui. En fait l'ange lui demande de l'appeler Jésus donc c'est bien elle qui donne le nom de Jésus. Mais c'est pas elle qui a eu l'idée de ce nom, c'est l'ange. Enfin, c'est Dieu qui...
Pour un nom initié au texte biblique, est-ce que tout cela est vrai?
Alors, pour un nom initié au texte biblique, est-ce que tout cela est vrai? Eh bien, justement, on va faire la liste. Est-ce que vous avez d'autres détails qui vous ont frappé? Alors, on va faire la liste depuis le début. Donc tout le début était juste. C'est vers le milieu que j'ai ajouté des petits détails. Donc Marie ne pouvait pas faire un long trajet à pied, ça c'est pas dit. C'est pas dit qu'il voyageait en âne non plus, c'est juste dit qu'il se rendait dans la ville de Bethléem. Ce n'est pas dit qu'elle pouvait pas marcher, ce n'est pas dit qu'il y allait en âne, c'est juste simplement dit qu'il y allait. Donc les carottes effectivement c'est pas dans le récit. Le voyage, on ne sait pas s'il dure 7 jours, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Effectivement, les places, c'est pas dit que les places étaient trop chères, c'est juste dit qu'il n'y avait plus de place. Joseph trouva un aubergiste, en fait c'est pas dit qu'il trouva un aubergiste qui accepta de les installer dans une étable, il est juste dit qu'ils s'installèrent dans une étable, mais voilà. Est-ce qu'il y a eu l'intervention d'un aubergiste ou pas? Certainement, hein. Les détails ne sont pas tous, enfin j'ai ajouté des détails mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tous vrais. Par exemple, j'ai ajouté que l'enfant était couché dans une mangeoire avec de la paille fraîche. Alors, est-ce que Jésus était vraiment sur la paille fraîche ou pas? Je ne sais pas. Ce n'est pas dit dans le texte biblique, mais comme on chante sur la paille fraîche, on se dit certainement aussi qu'il était couché sur la paille fraîche. Les bergers, alors ça c'était un piège, hein, parce que même moi j'aurais certainement pas pu détecter cela. Les anges qui apparaissent aux bergers, en fait c'est un seul ange qui apparaît au berger. Donc un seul ange apparaît au berger, mais une fois que les bergers sont informés, eh bien d'autres anges apparaissent. Et là, c'est une nuée d'anges qui apparaît par la suite. Mais au départ, il y a un seul ange qui apparaît au berger. Donc l'âne et le bœuf, non, mais finalement, c'est pas impossible non plus qu'il y ait eu des ânes et des bœufs dans cette étable. c'est pas impossible, mais c'est pas dit. Effectivement, les rois mages interviennent plusieurs mois après, parce que dans le texte biblique que nous lirons, je vais vous le lire, eh bien, les mages trouvent Jésus dans une maison et pas dans une étable. Donc ça veut dire qu'il était bien né, ils se sont installés dans une maison et plusieurs mois après, les mages arrivent. Par contre, ce qui peut être vrai, c'est que l'étoile soit apparue au moment de la naissance de Jésus. Donc l'étoile apparaît lorsque Jésus naît, les mages se rendent compte plus ou moins aussitôt que l'étoile est là, et plusieurs mois après, les mages arrivent, arrivent dans la région de, voilà, en Judée. Hérode fait tuer les enfants, malheureusement c'est tragique, il fait tuer les enfants de moins de 2 ans et pas les nouveau-nés, et avant de faire cela, il se renseigne sur le moment où les mages ont trouvé, ont perçu l'étoile. Donc ça veut dire que l'enfant avait probablement entre 18 mois et 2 ans lorsque les mages arrivent déjà pour le rendre visite. Donc l'enfant, voilà, marchait déjà finalement lorsque les mages arrivent pour le voir. Donc cette scène où on voit les bergers arriver et les mages arriver pour donner des cadeaux au bébé Jésus, eh bien c'est un peu trop condensé, on va dire. Mais les mages arrivent quand même, voilà, lorsque Jésus est petit. Effectivement, pas de sapin de détaillé dans la Bible. Quoi d'autre ? Oui, Jésus ne sourit pas, mais ça se trouve, il a souri. Hein. C'est pas dans le texte, mais peut-être qu'il a souri lorsque les mages sont arrivés. Joseph a été averti par un ange, mais les mages ont été avertis dans un songe. Donc sans forcément l'intervention d'un ange. Voilà, donc vous avez trouvé 80%, voire plus 90% des erreurs, bravo. Alors un non-initié initié à la Bible, comment il perçoit ça? Ben, finalement, comme on l'a vu, hein, beaucoup de détails ne sont pas dans la Bible, mais étaient probablement vrais. Enfin voilà, c'est pas dit, comme la présence d'animaux dans l'étable. Voilà, des petits détails comme ça qui ont été ajoutés au fil du temps, mais ça ne dénature pas, on va dire, le récit biblique. Simplement, c'est vrai que l'arrivée des mages, qui est bien différée, voilà, on peut aussi méditer sur cette arrivée des mages qui intervient bien après. Pourquoi est-ce que les mages interviennent bien après et pas tout de suite? Et voilà, il y aurait de quoi peut-être réfléchir. Alors, que peut-on apprendre du récit et du fait que les traditions différentes ont ajouté des détails qui sont finalement absents du texte? Eh bien, finalement, pourquoi tous ces détails? C'est parce que la nativité a été représentée souvent dans des œuvres artistiques, dans différentes époques, où les gens ne savaient pas tous lire, finalement. On le sait, hein, les tableaux étaient là pour aider à transmettre les récits bibliques à des personnes, une population qui ne savait pas forcément lire. Et finalement, lorsque l'on regarde le récit biblique est très sobre. Jésus est né dans une grande simplicité et le récit biblique ne détaille pas énormément de choses. Et donc, lorsqu'on faisait des tableaux ou des scènes bibliques, eh bien, certainement que les auteurs de ces œuvres artistiques trouvaient que le récit était trop sobre et donc il fallait un peu embellir la scène. Et finalement, cela peut nous faire réfléchir, à nous aussi. Le récit biblique est simple, Jésus est né dans la simplicité, dans l'humilité. Et finalement, l'être humain a du mal à rester dans la simplicité. On aimerait toujours en savoir plus, connaître plus de détails et peut-être ajouter plus de contenu au texte biblique et à Noël finalement. Comme je l'ai dit, hein, il est tout à fait possible qu'il y ait eu des ânes et des bœufs. Il est possible que les mages étaient au nombre de 3 puisqu'il y avait 3 cadeaux. Ah oui, ça, on ne l'a peut-être pas dit, mais les mages, on ne connaît pas ils étaient peut-être 2, ils étaient peut-être 4, on ne sait pas. Comme il y a 3 cadeaux, on s'est dit qu'ils étaient 3. Alors ce n'est pas mauvais de rajouter tous ces éléments dans la scène de la nativité, Mais pour rester fidèle au texte, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, ce n'est pas mauvais, comme je l'ai dit, d'ajouter tous ces éléments, mais pour rester fidèle au texte biblique, eh bien, je pense que ce récit nous invite à rester dans la simplicité, finalement. L'humilité avec laquelle Jésus est venu dans le monde, c'est ce que nous devons retenir de ce texte, et ce que nous ajoutons ne devrait pas remplacer la simplicité de la naissance. Et même Jésus est arrivé dans un contexte simple, et il est arrivé dans un contexte difficile aussi, dans le sens où Marie n'avait pas de chambre. Et après la naissance, eh bien, déjà des événements tragiques ont lieu, parce que le roi Hérode est un roi qui est méchant, qui inspire la terreur, même avant la décision de faire tuer tous les enfants. C'était déjà un roi qui commettait des actes un peu du même genre. Alors comment témoigner de Dieu à travers la nativité, finalement? Eh bien, je pense que on peut toujours parler de simplicité. La simplicité à laquelle nous invite le texte biblique contraste avec les excès matérialistes de notre époque. Et nous pouvons aussi, avec notre simplicité, faire réfléchir nos contemporains sur le sens des cadeaux. À Noël, la plupart des gens s'offrent des cadeaux, on en achète et on en reçoit. Ce sont pour la plupart des cadeaux matériels. On cherche l'objet qui fera plaisir, l'objet qui procurera une certaine joie. Alors je ne dis pas que c'est bien ou mal d'offrir des cadeaux, mais comment revenir à une certaine simplicité même dans ce contexte où on s'offre des cadeaux? C'est une question qu'on peut se poser. Peut-être, alors je donne juste quelques idées, hein, peut-être que de mettre, alors j'exagère un peu pour vous donner un peu des pistes. Peut-être qu'au lieu de mettre 500 euros pour un cadeau, ne mettre que 200 euros. C'est déjà beaucoup, hein. Mais c'est pour dire qu'au lieu plutôt que de passer à plein de cadeaux, à rien du tout, eh ben, peut-être marquer la différence avec une simplicité qui marque quand même Noël, mais qui marque aussi le fait qu'on désire être simple. Par exemple, il y a de plus en plus de familles qui, au lieu que chacun offre un cadeau à tous les invités, eh bien, on fait une liste des invités et on dit, on offre un cadeau à deux, trois personnes, à une personne, enfin voilà. Au lieu de se retrouver avec 10 cadeaux chacun pour 10 invités et avoir 100 cadeaux sous le sapin, il y en aurait peut-être 30 ou 10 simplement. Voilà, ce sont juste quelques pistes, mais au lieu de passer de tout à rien, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre un peu plus simple, marquer la simplicité dans nos fêtes. Dans la Bible, Dieu offre au monde un cadeau qui semble insignifiant, un bébé né dans une étable. Ce bébé, ce cadeau semble insignifiant, ce n'est pas un cadeau matériel, mais il dépasse de loin tous les cadeaux matériels que l'on peut s'offrir. Jésus, qui nous est offert, qui est offert à l'humanité, c'est le plus précieux de tous les cadeaux. Il offre ce que tout le monde cherche, finalement. Ce que l'on cherche à donner à travers des cadeaux matériels, Dieu l'offre à travers le Christ. Dieu offre ce que tout le monde cherche, à savoir la paix avec Dieu. Je pense que tout être humain cherche la paix avec Dieu, même si beaucoup ne reconnaissent pas son existence. Nous avons tous besoin de cette paix avec Dieu. Et finalement, cette paix avec Dieu qui mène à une vie épanouie grâce à lui. Et là, je pense qu'on peut dire vraiment que tout le monde cherche une vie épanouie. Tout le monde cherche cette vie à travers plein de choses. La Bible nous dit que c'est à travers Jésus que nous pouvons trouver cette vie épanouie. Donc la meilleure manière de témoigner de Jésus, c'est de vivre cette vie, de vivre cet épanouissement en Jésus. Et cela ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ce n'est pas parce que quelqu'un se convertit que du jour au lendemain, il sera épanoui. Cela ne se fait pas en lisant un livre avec 10 étapes à suivre pour être épanoui. Cette vie épanouie se trouve dans une relation quotidienne avec Dieu. Elle se trouve dans la prière, dans la lecture de la Bible, la méditation de la parole. Et cela se fait même à travers les épreuves. La vie épanouie avec Jésus peut même se trouver à travers les épreuves. Alors je n'ai pas la recette, je peux raconter mon témoignage, mais je n'ai pas la recette. Alors c'est vrai que lorsqu'on dit « le chrétien est épanoui », si vous vivez des moments difficiles, si vous n'êtes pas épanoui, cela peut interpeller. Mais je pense que vraiment, le message de l'Évangile peut rendre possible cette vie épanouie sur cette terre même, avant même d'atteindre le paradis. Alors, de savoir que c'est possible, cela nous invite à toujours chercher plus à être dans la présence de Dieu, de chercher plus à méditer la parole, à chercher à la comprendre. Que Dieu nous aide à être touchés par son cadeau, sa venue sur terre. Par cette naissance, dans une étable, il a réalisé cette prophétie qui annonçait la venue d'un Messie, celui que l'on appellerait aussi Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et c'est ça le plus grand des cadeaux, c'est que Dieu est avec nous. Amen. Je vous invite à la prière et à prendre ce chant que nous avons déjà chanté la semaine dernière, « Lumière du monde ». Prions. Notre Père, merci parce que tu nous as offert le plus grand des cadeaux, le plus beau des cadeaux. Il ne remplacera pas, aucun cadeau matériel ne peut remplacer cette grâce que tu nous fais d'être auprès de toi et surtout de bénéficier de ta présence dans notre vie de tous les jours. Aide-nous à progresser dans notre vie avec toi, à grandir dans notre foi, et que cette croissance dans la foi puisse nous amener à une vie toujours plus épanouie en toi, pour que cette vie puisse rayonner autour de nous, même à travers l'épreuve. Que tu puisses nous offrir cette grâce de connaître la joie déjà ici-bas d'être en ta présence chaque jour, et que cela puisse être le témoignage de ton Église. Au nom de Jésus. Amen.